l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Toulouse, 97.9.
Il est midi, soyez les bienvenus. Présence midi en direct jusqu'à 13h et c'est la première émission de l'année avec Anne-Rose Jankovic. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Meilleurs vœux Gilles.
Meilleurs vœux à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année?
D'être présente sur l'antenne toutes les semaines en 2026. Avec vous, c'est sympa quand même, on fait de belles émissions.
C'est sympa, voilà.
Que 2026 nous apporte de bons duos à l'antenne.
C'est ça, et de bons auditeurs également. Qu'on salue,
ils sont toujours bien,
nos auditeurs. On souhaite également des meilleurs vœux à nos auditeurs.
Bien sûr.
Au-delà de tous ces vœux, on va évoquer le sommaire de cette émission et dans quelques minutes, on évoquera l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes, un agenda assez chargé pour ce début d'année.
Oui, quelques informations de part et d'autre du diocèse. Nous allons aller en Pays de Teuil, du côté d'Argelès-Gazost également, et puis nous parlerons de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
À vos côtés, un invité que vous allez recevoir à midi et quart.
Régis Latapi, chanteur de tradition et de transmission orale, peut-être qu'il nous souhaitera les vœux en langue occitane, qui sait. Voilà. Nous verrons ça dans quelques instants.
Le plan Grand Foi a été déclenché et dans quelques minutes, eh bien, nous parlerons du Secours catholique.
Oui, nous prendrons la direction de Tarbes. Nous irons du côté de l'escale du Secours catholique qui nous parlera des dispositions prises et mises en place pour prendre soin des personnes qui sont en grande précarité et dont certaines dorment à la rue. Comment les accompagner, comment prendre soin d'elles en ces jours où il fait, vous l'avez noté, moins 6, moins 7 le matin. Eh bien, nous verrons qu'à l'escale, on peut prendre soin des personnes, leur proposer une petite boisson chaude et beaucoup de réconfort.
Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes sera également dans nos studios pour évoquer l'église paroissiale de Lourdes. C'est dans le cadre des balades de pays de Lourdes. Mais pour le moment, place à l'actualité avec à 12h30 le journal régional. Mais Lou Deneville de l'école de journalisme et de communication de Blagnac est d'ores et déjà avec nous pour les titres à la une.
Après qu'un troisième foyer de dermatose nodulaire s'est déclaré en Ariège, l'abattage d'une centaine de bêtes provoque la colère des agriculteurs. Hier, le Premier ministre Sébastien Lecornu a reçu les syndicats aveyronnais pour trouver des solutions. À Rodez, les médecins de la ville et les cliniques manifestent pour défendre leur liberté d'exercice jusqu'au 15 janvier. Les hôpitaux publics pourront être réquisitionnés par le préfet de l'Aveyron en cas de grande urgence. Le préfet du Gers ouvre en continu les centres d'hébergement d'urgence pour assurer la mise à l'abri des personnes vulnérables dans le cadre du plan Grand Froid. Si vous êtes en présence d'une personne en situation de détresse dans l'espace public, contactez le 115, numéro d'appel d'urgence gratuit. Le premier refuge d'accueil d'urgence en France des animaux maltraités ou confisqués par la justice devrait ouvrir début 2026 à Toulouse. Les nombreux dons sur la cagnotte lancée par l'association 4 Patounes ont redonné espoir à sa présidente Céline Gardel. Et après les fêtes, place au recyclage. La mairie de Lourdes ouvre plusieurs zones de collecte des sapins de Noël jusqu'à début février. Dans le Tarn-et-Garonne, Montauban suit le mouvement avec 24 points de collecte répartis dans toute la ville.
Et merci à Lou Deneville qui est étudiante au sein de l'école de journalisme et communication de Blagnac. On la retrouve à 12h30 pour développer ses titres dans le journal.
Radio Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
C'est le premier agenda de l'année pour le diocèse de Tarbes et Lourdes avec Anne-Rose Jankovic. Rebonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Avant de parler des événements à venir dans les prochains jours, retour sur ce dimanche 4 janvier, retour sur cette messe de clôture de l'année jubilaire.
Ah oui, quel beau moment nous avons vécu ce dimanche après-midi. C'était effectivement la solennité de l'Épiphanie et c'était la clôture de l'année jubilaire pour tous les catholiques du diocèse de Tarbes et Lourdes. Nous avions rendez-vous en la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes, un rendez-vous donné par notre évêque, Monseigneur Jean-Marc Mika. Il y avait énormément de prêtres venus de tous les coins du diocèse, beaucoup de fidèles aussi, beaucoup de familles également à la veille de la rentrée scolaire qui étaient venus prier ensemble, rendre grâce pour cette année jubilaire. Et au cours de cette célébration, nous avons fait la part belle, si je puis dire les choses comme ça, bienheureux Pascal Vergès, béatifié le 13 décembre dernier. Cette clôture du jubilé était vraiment l'occasion de rendre grâce tous ensemble pour cette béatification. Si vous avez suivi cette messe, vous avez sans doute noté qu'un grand portrait de l'abbé du bienheureux Pascal Vergès a été dévoilé tout près du cœur de la cathédrale, et puis une plaque mémorielle aussi pour mentionner et attester de la béatification de l'abbé Pascal Vergès a été découverte, bénie également par notre évêque Monseigneur Mika. C'était vraiment une belle célébration. Alors l'espérance, ça continue, hein, Gilles, hein, le jubilé est terminé, mais on continue sur Radio Présence. C'est tous les jours, voilà, c'est tous les jours l'espérance.
Voilà, c'était donc dimanche 4 janvier, donc la cathédrale de Tarbes. Vous parliez à l'instant de Monseigneur Jean-Marc Mika. C'est l'occasion pour nous d'évoquer sa prochaine visite paroissiale. Ça va se passer dans le Pays Toy, c'est dans le sud, hein, du département des Hautes-Pyrénées.
Oui, puisque depuis la rentrée de septembre, Monseigneur Jean-Marc Mika parcourt le diocèse de Tarbes et Lourdes. Il va à la rencontre des paroissiens, des communautés paroissiales, pour expliquer tous les changements qui sont mis en place depuis la rentrée pastorale. Vous savez que désormais, le diocèse de Tarbes et Lourdes est organisé en 10 paroisse, ça entraîne beaucoup de changements d'organisation, un changement comme tous les changements qui s'accompagnent, qui nécessitent des dialogues, des réponses à des questions. Et c'est pour cela que notre évêque Monseigneur Mika va de paroisse en paroisse pour rencontrer les paroissiens, répondre à leurs questions, les informer et leur donner quelques clés de compréhension de ce qui est en train de se vivre dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Donc la prochaine rencontre, c'est ce jeudi 8 janvier à Luz, pour toute la paroisse de Luz et du Pays Toy, une rencontre qui commencera à 9h30 et qui se terminera en milieu d'après-midi vers 15h.
On reste dans le sud du diocèse de Tarbes et Lourdes avec deux informations qui viennent d'Argelès-Gazost.
Oui, à Argelès-Gazost, où la communauté paroissiale nous invite à une messe pour bénir l'année qui commence. La messe célébrée à 10h30 en l'église d'Argelès-Gazost le dimanche 11 janvier. Ce sera vraiment l'occasion pour toute la communauté paroissiale de rendre grâce pour l'année qui s'est écoulée et puis de se plonger dans l'année 2026 avec beaucoup de joie.
Et puis on parle également d'Argelès-Gazost avec un événement 4 ans après un incendie qui a ravagé l'école et le presbytère.
Exactement, c'était le 17 janvier 2022. Le presbytère d'Argelès-Gazost prenait flamme en endommageant considérablement l'école Notre-Dame, mitoyenne du presbytère. 4 ans après cet événement qui avait énormément ému à la fois les habitants d'Argelès-Gazost, mais également tous les habitants de la vallée et du département des Hautes-Pyrénées. 4 ans après des travaux et beaucoup de larmes, de défis relevés également, nous sommes très heureux de pouvoir donner rendez-vous le samedi 17 janvier 2026 pour l'inauguration à la fois du presbytère et de l'école. Alors les enfants, les élèves de l'école Notre-Dame ont retrouvé leur école au mois de septembre, mais ce 17 janvier 2026, ce sera l'inauguration de ces deux lieux, le presbytère et l'école. Et c'est vraiment une très grande joie qu'on est très heureux de partager avec les auditeurs de Radio Présence, parce qu'on avait beaucoup suivi sur Radio Présence l'évolution des travaux. On était là le jour de l'incendie, on a accompagné les élèves, on a souvent donné la parole à tous ceux qui travaillaient parfois dans l'ombre pour que les travaux puissent aller de l'avant. Et donc ce rendez-vous du 17 janvier, c'est le point final des travaux, mais c'est le point de lancement aussi d'une nouvelle aventure.
Voilà, c'est Argelès-Gazost. On termine cet agenda avec la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La date approche, hein.
Oui, tout à fait. Comme chaque année, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens concerne toute l'Église universelle. Elle aura lieu du 18 au 25 janvier prochain. Cette année, elle a pour thème « Il y a un seul corps et un seul esprit ». Et pour préparer cette semaine tout à fait particulière, nous avons un rendez-vous, une conférence de la Maison Saint-Paul donnée le mardi 13 janvier avec ce thème « Quel dialogue entre chrétiens et non-chrétiens, 60 ans de Nostra Aetate ». Nostra Aetate, c'est la déclaration conciliaire considérée comme un des textes majeurs pour le dialogue entre les religions. Mardi 13 janvier, le père Arnaud Franck viendra de Toulouse pour nous expliquer ce texte, donc Nostra Aetate, 60 ans du Concile Vatican II. Mardi 13 janvier à 20h30, c'est une conférence qui est évidemment ouverte à tous.
Voilà pour le premier agenda de l'année, ça s'est bien passé finalement.
Ouais, oui, écoutez, je vais revenir la semaine prochaine, j'aurai d'autres choses à vous dire.
Voilà, et la suite c'est également sur catholique65.fr.
catholique65.fr, l'application au clocher et le bulletin diocésain.
Merci Anne-Rose, voilà pour l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes.
Et bientôt, pardon, et bientôt des nouveautés sur Bigorre TV.
Voilà, on n'en dit pas plus, mais moi je suis un petit peu au courant, mais je peux rien dire.
Non, vous pouvez rien dire, il faut être abonné. Ah,
exactement.
Je rappelle quand même que j'attends le 1000e abonné à la chaîne YouTube du diocèse de Tarbes et Lourdes, Bigorre TV. Le 1000e abonné a une surprise qui l'attend pour finir.
Une galette des rois.
La surprise va moisir.
Merci Anne-Rose Jacobi, qu'on vous retrouve dans un instant.
Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcast de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Présence.
Merci d'avoir choisi Radio Présence, toujours en compagnie d'Anne-Rose Jankovic. Anne-Rose, avec votre invité.
Bonjour Régis Attapi.
Adi Bonne-Rose.
Ah ouais, ça commence bien. Vous êtes chanteur de tradition et de transmission orale. Vous êtes facteur et luthier d'instruments des Pyrénées. Votre spécialité, c'est le chant polyphonique pyrénéen. Et c'est vous qui avez fondé en 2016 le CDMDT des Hautes-Pyrénées à Ibos. C'est le Centre départemental de musique et danse traditionnelle. Bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce Centre départemental de musique et danse traditionnelle, qu'est-ce que c'est ? Au fond, ça sert à quoi de créer un lieu comme celui-ci, Régis Attapi ?
Le CDMDT 65 a pour but de valoriser et de promouvoir la culture locale autour de la culture occitane gasconne.
Alors pourquoi vous avez senti que c'était un lieu qui avait vocation à naître dans les Hautes-Pyrénées ? Pourquoi c'était nécessaire de créer un lieu comme ça ? Il y avait un manque, vous avez, quel est le parcours qui vous a conduit à vous dire, eh bien, en fait, on a besoin d'un lieu comme ça, qui soit à la fois un lieu culturel, mais aussi un lieu de transmission.
À l'image de la polyphonie, où il faut être plusieurs à s'entendre pour fabriquer un son collectif, l'école elle est née par une volonté collective avec deux autres profs, qui aujourd'hui ont quitté l'école, sont partis sur d'autres, mmh. d'autres aventures. Mais ça a été une idée commune en fait.
Le chant polyphonique dans les Hautes-Pyrénées, en Bigorre et dans les Quatre Vallées, comme on aime bien dire ici mmh. sur l'antenne de Radio Présence, ça représente quoi? Le chant polyphonique, c'est quoi historiquement dans la culture pyrénéenne?
Le chant a quand même toujours été présent. Il était avant tout présent dans des lieux informels, que ce soit en famille ou lors de rencontres festives. Et petit à petit, il est venu sur scène en fait.
Oui, il y a un côté spontané dans le chant.
Ouais, je pense que c'est l'essence même de ce chant. Il faut qu'il reste aussi spontané pour qu'il y ait des portes ouvertes aussi aux gens qui viennent chanter, qui ne connaissent pas. Et ça a été mon chemin qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui.
Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas être musicien, il ne faut pas connaître, savoir lire les notes de musique pour pouvoir chanter. Pour pouvoir chanter la polyphonie.
Oh, tout à fait, et je l'affirme avec un grand A. En tout cas, c'est vraiment une musique qui est à la portée de tout le monde. Moi, je transmets, que ce soit de la moyenne section, en passant par l'école primaire, au collège, lycée, jusqu'au retraité, où on n'a pas besoin de savoir lire une partition pour apprendre à chanter, et surtout apprendre à chanter avec les autres.
Il faut avoir quand polyphonie. Même une sacrée oreille, la polyphonie, c'est...
Mais c'est comme le footing, hein, ça s'entretient et ça se développe au fur et à mesure qu'on pratique en tout cas.
Mais alors, dans ce centre aujourd'hui, vous parlez d'élèves petits, hein, depuis la grande section.
Ouais,
ça veut dire que vous proposez des cours spécifiques pour chaque tranche d'âge. Comment ça se passe en fait ?
Alors les cours, ils peuvent être au sein du CDMDT, donc du Centre départemental et musique danse traditionnelle, mais ils vont être aussi en délocalisé. On va dans les écoles.
D'accord, donc aujourd'hui vous intervenez dans combien d'écoles ?
Alors ça marche par projet, ça dépend des années. Cette année, je crois que j'ai, je sais pas moi, 5 ou 6 projets dans des écoles primaires. Je vais aussi dans des collèges et je tiens un atelier de chant dans un lycée aussi, au lycée Ricole à Vic.
Et vous sentez qu'il y a un intérêt qui grandit pour cette culture pyrénéenne, en particulier pour ce chant polyphonique pyrénéen. Ça intéresse aujourd'hui les gens, y compris les jeunes ?
Déjà on éprouve, je vois que les jeunes éprouvent un intérêt à revenir vers... leur source, leur racine, en fait. Ils veulent chanter la langue où, du territoire où ils habitent. Ils veulent chanter une façon dont ils entendent aussi en famille ou lors des fêtes. Donc chanter à plusieurs voix, chanter en polyphonie.
Oui, alors c'est là qu'on retrouve ce côté spontané, les fameuses canters. Voilà, là, tout d'un coup, on se met à chanter.
Voilà, canters, officiels, officieuses, mais en tout cas, il en fleurit.
Parfois n'importe comment, mais quand même, ça dit quelque chose dans notre culture.
Je n'irais pas dire n'importe quand. Quoi. ça se structure.
Je savais que ça allait pas vous plaire.
Il faut connaître les codes quand même, voilà.
Alors c'est quoi les codes justement,
les codes, c'est que c'est une cantère, pour moi il faut que ça reste ouvert à tout le monde. Il faut
hommes et femmes.
Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Voilà, et c'est une cantère qui on peut venir quand on veut, on part quand on veut, on peut boire un verre si on a envie, on peut manger si on a envie, on chante avec qui on veut. Et ce qu'on veut, voilà, c'est très très libre en tout cas.
En fait, ce chant polyphonique des Pyrénées, c'est un lieu de rencontre. C'est ça, historiquement, c'est vraiment un partage. Qu'est-ce qu'on y raconte dans ces chants? Parce que c'est forcément en occitan ou...
Alors, déjà, c'est intergénérationnel, donc on peut rencontrer. Moi-même, j'amène mes enfants sur des canters où ils ont appris à chanter en fait comme ça.
Mmh.
Et après, ça raconte les thématiques. Pour un gros pourcentage, c'est des chants qui sont issus du milieu du pastoralisme. C'est des chants qui sont pas datés, on connaît pas les auteurs, on connaît pas ni qui a composé. Mmh. Donc c'est des chants qui sont véhiculés, donc comme vous l'avez dit, par transmission orale.
Donc c'est par les familles,
depuis...
principalement.
Mais pas que. Ouais. Mmh. Oui, il y a un pourcentage par les familles, mais aussi par des moments de vie, de moments festifs.
Mmh. Voilà.
Moi-même, j'ai appris à chanter dans des moments festifs avec des anciens, où on n'a pas de feuilles, on n'a pas de texte, donc on mémorise les textes, on mémorise les mélodies, et ça se fait de façon empirique.
Donc il faut quand même maîtriser la langue, c'est pas en français.
Alors c'est pas en français, je dirais, c'est un petit plus si on comprend un peu les textes et ça permet d'avancer plus vite. Mais aujourd'hui, pour mettre un pied à l'étrier, on peut commencer à chanter en apprenant lors de moments de transmission formelle ou informelle, mais on peut apprendre, c'est dommage de se mettre des barrières.
Au-delà de l'apprentissage du chant, vous, qu'est-ce que vous avez appris à travers cette pratique-là, à travers le chant polyphonique? Qu'est-ce que vous avez appris de notre territoire? Qu'est-ce qui fait que ça vous a touché, rejoint?
J'ai appris à écouter les autres aussi. D'accord. Il faut d'abord s'écouter soi-même, mais il faut d'abord écouter les autres. Et si on veut que la polyphonie, elle marche, il faut être à l'écoute de ce qui se passe à côté de nous, en fait. Chanter pour soi et en polyphonie, ça marche pas. Il faut qu'on aille chercher la communion avec les autres à côté pour que cette magie des voix qui s'assemblent, des voix qui résonnent, il faut être présent, en tout cas, il faut être... pour que ça fonctionne.
Alors revenons sur les actualités ou le fonctionnement en tous les cas du CDMTT. Vous avez donc des déplacements dans les établissements, mais vous donnez aussi des cours à IBOS.
Mais pas que.
Alors là, comment ça fonctionne? C'est à quelle fréquence? Qui peut venir? Comment on participe? Comment sont mélangés les élèves?
Ouais. Alors déjà, on est sur trois entités. La voix, les instruments et la danse. Déjà, on a trois pôles déjà.
Donc on choisit le pôle qui...
Ou les pôles. Il y a des gens qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre en fait.
Ouais.
On a de plus en plus. On a fait une stat là sur les dernières années du CDMDT et l'effectif il va en progression. Donc,
vous avez là combien d'élèves en ce moment?
Là on est à 110 élèves à peu près.
Et donc ça continue de progresser.
Oui, ça continue de progresser.
Donc le chant, la musique et les danses.
Tout à fait. Ouais.
Les trois suscitent un intérêt.
Tout à fait.
Y compris la danse traditionnelle.
Plus ou moins, il y a quand même un intérêt pour la voix.
Ouais.
Qui est relativement présent parce qu'on peut faire des cours collectifs aussi.
Ouais.
Moi, j'ai deux ateliers où j'ai quasiment entre 25 et 30 personnes par atelier avec des adultes. Et j'ai un autre atelier au lycée agricole où j'ai 25 élèves.
Donc là, ce sont des ados.
Ados, oui.
Ou grands ados.
Ados motivés, voilà.
Ados motivés.
Après, il y a une partie instrumentale aussi où, pareil, chaque prof a des spécialités autour de la flûte et du tambourin à cordes, des instruments un peu emblématiques de la Bigorre.
Oui.
Mais pas que. Le violon, l'accordéon diatonique, la cornemuse landaise aussi.
Alors vous-même, ça c'est une de vos spécialités, ces instruments?
Alors moi je fabrique la flûte et le tambourin encore, mais je ne donne pas de cours, je laisse faire les spécialistes en tout cas. Voilà. Et l'accordéon diatonique aussi qui est bien présent.
Alors quand même, pardon, mais pour cette partie instrumentale, là il faut quand même être musicien?
Alors là c'est des... Non, au point de vue des élèves. Non, on a des adultes qui arrivent et qui n'ont jamais touché un instrument en fait. Et le premier cours, on les fait jouer.
Alors ça, c'est merveilleux.
Tout à fait. C'est pour ça que je dis quel dommage, il y a beaucoup de gens
oui,
qui se mettent des limites.
Effectivement.
Alors qu'on peut pratiquer une musique, celle-là ou une autre. Hein. En tout cas, nous, au CDMDT, on promeut cette façon de transmettre par de transmission orale et qui permet de jouer très rapidement en fait un instrument.
Alors sur les instruments spécifiques là des Pyrénées, c'est quoi leur particularité en termes de son?
La particularité de ces instruments, c'est qu'ils se jouaient essentiellement dehors pour faire danser. L'origine de ces instruments, ils n'étaient pas sur scène en fait, ils étaient pour ils avaient une place sociale, ils faisaient danser les gens tout simplement.
Une place sociale, oui.
Et du coup, la flûte et le tambourin à cordes, c'était des musiciens autonomes qui sont capables de faire la mélodie et la rythmique en même temps. Et cette spécificité, on la retrouve côté sud et côté nord des Pyrénées, et qui s'étale de Bilbao jusqu'en Ariège, en fait. Donc cette aire géographique, elle est vraiment présente avec des spécificités de ce couple, on appelle ça un couple, flûte et tambourin à cordes, ou flabut et tum-tum. Engascu.
C'est bien, j'aime bien quand vous parlez gascon.
Donc voilà, et c'était un instrument, ils étaient vraiment présents, on a des choses à tester et quelques vidéos sur Luce aussi.
Donc en fait, ces formations, ces trois pôles que vous proposez, ils se complètent tout le temps. La musique pour danser, le chant pour accompagner, enfin, c'est vraiment.
Pour moi, c'est lié, ouais.
Tout ça, c'est lié.
Et l'élément central, c'est la langue.
Ouais.
Qu'il a dedans.
Ouais. Alors, pardon, mais quand je vous écoute, Régis Atapi, je me demande comment, quel a été, même vous en avez parlé un petit peu, mais quel a été votre parcours pour en arriver là, en fait. On se forme à ces métiers-là, on apprend ça, enfin.
Alors, pour moi, ça s'est découpé en deux temps. C'est-à-dire qu'une partie de ma pratique, je suis resté amateur. Et à la fois, j'ai eu la possibilité, j'ai été invité par un groupe de chanteurs pro qui m'a permis en fait de me diriger vers des diplômes professionnalisants en tout cas.
Donc il y a un diplôme professionnalisant de chant pour apprendre le chant traditionnel.
La première étape, ça se passe au conservatoire à Tarbes où on passe un DEM, un diplôme d'études musicales avec une spécialité des musiques traditionnelles. Et si on a envie d'aller plus loin, on peut aller à Toulouse au conservatoire, passer un diplôme d'État, ce que j'ai fait, pour pouvoir avoir des bagages en pédagogie et être équipé pour aller sur n'importe quel public en tout cas.
Donc aujourd'hui, c'est quoi votre métier, pour le dire simplement?
C'est un métier passion et du coup, je suis toujours en quête d'apprendre et de me nourrir d'éléments extérieurs qui peuvent venir enrir cette musique traditionnelle.
Vous n'avez pas fini d'apprendre là, il y a encore des choses que vous découvrez.
On apprend toute la vie, on apprend.
On entend tout le travail qui est fait tout au long de l'année, puisque voilà, il y a ces cours qui sont donnés avec ces trois pôles, la musique.
Il y a des cours réguliers.
Des cours réguliers, puis il y a ensuite, des événements.
Il y a des événements, moi je marche par projet en fait. Des écoles qui m'appellent pour un projet sur 2 mois. Donc du coup, on va travailler quelque chose de spécifique sur 2 mois, souvent avec une restitution aux parents ou en public. Et ensuite, il y a de l'événementiel, comme j'ai pu le proposer sur des stages de 5 jours.
Ouais, alors, je me suis promenée sur le site internet du CMDT et j'ai vu des séjours, balades et chants polyphoniques. Vous pouvez nous présenter ça? Il y en a en 2026, c'est prévu des séjours comme ça?
C'est possible. Donc, il y en a deux qui sont programmés en 2026. Malheureusement, celui qui est en Corse, il est plein. Il a été plein en 8 jours.
Alors, ce que vous faites ici dans les Hautes-Pyrénées, vous le faites en Corse?
Je le fais en Corse aussi, voilà. Et ça a été initié.
Mais vous ne chantez quand même pas des chants polyphoniques des Pyrénées en Corse?
Non, je ne m'aventurerai pas sur les spécialités corses, mais la musique crée des rencontres, parce qu'en allant là-bas, en fait, moi j'y viens avec mon bagage pyrénées, mais j'ai pu rencontrer des Corses avec qui on a eu des échanges profonds sur la pratique vocale aussi. Et
c'est la même chose? Il y a des différences?
On est cousins, on va dire.
Oui.
On a chacun nos spécialités, chacun les subtilités de la langue et de la musique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette communion des voix et apprendre à écouter les autres, ils sont dans la même philosophie.
Oui, et puis cet amour du territoire que vous dégagez à travers
l'amour,
ce chant.
L'amour de nos territoires respectifs en tout cas.
Ouais.
Et l'ambiance, ça se passe très très bien. Et souvent quand on dit que les Corses y sont fermés, si on y arrive aussi avec notre pratique, ça se passe hyper bien en fait. Moi je passe des moments mémorables chez eux. Pour partager ces soirées ou ces temps d'apprentissage en tout cas.
Et alors s'agissant des séjours que vous proposez ici chez nous dans les Hautes-Pyrénées, il y en a en 2026
Il est programmé aussi, et là il reste encore des places, dépêchez-vous. Il est sur la dernière semaine de juin, première de juillet.
Et là ça se passe comment? Ça se passe où? Ça se passe comment?
Alors moi j'embarque les gens pendant 5 jours à chanter. On chante entre 4-5 heures par jour. Des fois plus, il y a des gens qui sont vraiment motivés. Mais du coup, on y va progressivement. Il y a un gros boulot qui se fait sur la technique vocale. Donc vraiment apprendre à connaître son corps pour maîtriser son instrument et obtenir un geste vocal le plus fluide possible. En tout cas.
Et là, ce ne sont pas forcément des personnes que vous avez eues pendant les cours tout au long de l'année. C'est des personnes qui peuvent venir en stage d'initiation, vraiment. Quoi.
Ouais. Aujourd'hui, ça fait quelques stages que je propose ici ou en France, du coup. Et en cheminant sur les routes de la polyphonie, il y a des gens qui ont envie de continuer, d'approfondir leur apprentissage. Mais je suis content d'accueillir aussi des gens du territoire ici pour venir consolider leur pratique ou alors apprendre complètement.
Qu'est-ce que ça change de le faire un peu en immersion dans un territoire, d'aller dans un lieu où on peut faire aussi des promenades? Qu'est-ce que ça ajoute?
Ce qui me plaît, c'est qu'on peut travailler en profondeur. Sur 5 jours, on a le temps de se poser. En fait, aujourd'hui, beaucoup de gens sont speed et ne prennent pas le temps de prendre soin de leur corps ou de leur voix, ou le temps d'apprendre aussi des choses. Mmh. Et du coup, en 5 jours, on a le temps d'aller tous ces paramètres. Moi, je me focalise aussi sur l'individu et je ne me focalise pas que sur le groupe.
C'est particulier, ça, parce qu'en polyphonie, c'est le groupe qui compte, non ?
Mais à la fois, il faut développer l'unité.
Alors ça peut marcher quand vous avez un petit groupe, mais comment vous faites
Je prends des temps pour détendre, ne serait-ce que des discussions avec chacun, ou amener des outils qu'une personne a besoin, mais je vais nourrir le groupe en même temps. Ça fait qu'à chaque fois, chaque personne, elle arrive à amener des cordes à son arc pour que la polyphonie collective puisse être nourrie.
Si on n'a pas envie, ou si en tous les cas on ne se sent pas prêt à être élève du CDMDT, est-ce qu'on peut venir quand même vous écouter? Où et dans quelles circonstances on peut découvrir votre travail? Est-ce qu'il y a des festivals par exemple?
Alors on a un événement qui est majeur qui s'appelle Terre Trad, qui sera le 30 mai 2026, où là on va présenter sur un concert à la collégiale d'Ibos. Tous les ateliers vont jouer soit seul, soit on va tous jouer en collectif. Et ensuite le soir il y a un bal où là cette année ça va être un peu la nouveauté où tous les élèves ils vont animer une partie du bal. Donc c'est mettre les gens en mouvement avec le travail qui a été fait de l'année.
Vous êtes combien dans l'équipe pédagogique à porter tout ce que vous nous expliquez là, à la fois les cours tout au long de l'année, les interventions dans les écoles, festivals, les stages rando et chant, vous êtes combien?
Là on est 8 profs à peu près sur le CDMDT, avec chacun des spécialités. Depuis le début, moi j'ai voulu que les profs soient rémunérés, donc tout le monde est quasiment professionnel de leur discipline. Donc j'essaye d'aller chercher des gens qui sont spécialisés dans le but d'amener les élèves vraiment sur des choses plus pointues et de pas rester juste en superficiel en tout cas.
Qu'est-ce que vous diriez, Régis Adapi, à des personnes qui peut-être nous écoutent et se disent bon bah oui enfin tout ça c'est du passé, le chant polyphonique ça raconte l'histoire d'avant, c'est plus la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour leur dire bah non en fait c'est quelque chose qui nous a été transmis et qu'on a aussi à transmettre?
Que la tradition, elle est vivante, en fait. On la regarde ou on la regarde pas, mais elle est présente sur le territoire, elle est là. Donc aujourd'hui, en fait, moi, c'est pas juste fictif, c'est des gens qui viennent me voir et qui me disent « ça m'intéresse d'apprendre, en fait. Mais je sais pas comment faire. » Je leur dis « moi, venez au CDMDT, on va vous accompagner. »
Voilà, et eh bien bravo. Alors moi, je vois qu'il reste une minute et que peut-être pendant cette minute, vous pourriez nous chanter un petit quelque chose pour qu'on démarre bien l'année 2026 ou au moins nous partager vos voeux en gascon.
Mais en tout cas, chanter la polyphonie seule, c'est difficile.
À mon avis, vous chantez seul aussi, non?
Mais je peux parler, je peux parler de...
Alors allez-y, vous avez 40 secondes pour présenter aux auditeurs de Radio Présence vos voeux en gascon.
Et Kep Desili, à Bounanad, à Bouzaoutis et à toute l'équipe de la radio. Merci Santa l'invitation et qu'il y ait eu grand plaisir de partager mes passions.
Merci beaucoup Régis Atapi, je rappelle donc c'est vous qui avez fondé en 2016 le CDMDT dans les Hautes-Pyrénées à Ibos. Merci d'avoir partagé avec les auditeurs de Radio Présence votre passion. Très belle année 2026 à vous.
Merci Adichat.
Radio Présence dans la vallée du Lot 92.5.
Yann Rose, on va vous retrouver dans un instant juste après le journal régional avec notre invité et un autre sujet.
Oui, nous prendrons la direction de Tarbes, direction l'escale du Secours catholique. Nous allons aller voir comment en ces jours de grand froid, nous prenons soin, le Secours catholique prend soin des personnes qui sont en grande précarité et à la rue.
Et pour cette première émission, je vous félicite, vous êtes juste à l'heure. Midi et demi.
Midi et demi. Ça me laisse.
Ah oui,
sans
mais là,
moi.
Voilà, vous êtes scotché là. Hein. Ça vous étonne même.
Oui, ça m'étonne de moi. Mais je suis merveilleuse en ce début d'année 2006.
Une belle année qui démarre. C'est Lou de Neuville qui nous rejoint maintenant. Elle est étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. On la retrouve pour le journal régional.
Un troisième foyer de dermatose nodulaire en Ariège a provoqué l'abattage d'une centaine de bêtes. La colère des agriculteurs gronde, plus que jamais, aux portes de l'Élysée. Sébastien Durand, président de la coordination rurale de l'Ariège, a été reçu hier à Matignon par Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a écrit dans sa lettre ouverte aux agriculteurs, je cite, « Il y a urgence à renforcer notre souveraineté alimentaire ». Dans le même temps se poursuit la mobilisation nationale contre l'abattage systématique des troupeaux touchés par un cas de dermatose nodulaire. À Rodez, les médecins de la ville et les cliniques manifestent pour défendre leur liberté d'exercice. Le mouvement de grève nationale continue pour les professionnels de santé à Rodez. Les syndicats aveyronnais soutenus par les étudiants appellent à cesser toute activité médicale jusqu'au 15 janvier. Cependant, en cas d'urgence, le préfet a annoncé être en capacité de réquisitionner certains établissements pour assurer des missions de service public, comme la maternité ou les urgences vitales. De son côté, le préfet du Gers ouvre un continue les centres d'hébergement d'urgence dans le cadre du plan Grand Froid. Les températures négatives persistent dans le département du Gers, et ce jusqu'à la fin de semaine. Pour faire face à ce grand froid, les centres d'accueil d'hébergement d'urgence sont ouverts en continu pour assurer la mise à l'abri des personnes en difficulté. Un renforcement des maraudes destinées à aller à la rencontre des personnes vulnérables est également prévu. Si vous êtes en présence d'une personne en situation de détresse dans l'espace public, contactez le 115, numéro d'appel d'urgence gratuit. Et c'est une bonne nouvelle pour l'association Les Quatre Patounes. Depuis 2 ans, l'association se bat pour l'ouverture d'un premier refuge d'accueil d'urgence en France, un dispositif destiné aux animaux maltraités ou réquisitionnés par la justice. Sa dirigeante Céline Gardel, policière de Toulouse, se réjouit que la cagnotte relancée en décembre atteigne les 195 000 euros. La capitaine des animaux se félicite de ce nouvel élan de générosité qui permet d'envisager une ouverture du refuge au premier semestre 2026. Pour les intéressés, la cagnotte est toujours ouverte sur le site de l'association. Lourdes ouvre plusieurs zones de collecte pour le recyclage des sapins de Noël. À l'issue des fêtes de fin d'année, la mairie de Lourdes suit l'exemple national en valorisant ses déchets verts. Après la fermeture des points de collecte début février, les sapins seront transformés en paillage, utilisé pour les espaces verts municipaux. Dans le Tarn et Garonne, Montauban s'inscrit dans le même mouvement et ouvre 24 points de collecte répartis dans toute la ville. Ici toutefois, la municipalité agit de manière différente, puisque les sapins seront ensuite recyclés en compost par Cirtomade, le syndicat mixte de traitement des déchets.
Et merci à Lou de Neuville, qui est étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. Allez, à suivre dans les prochaines minutes, on partira en balade en Pays de Lourdes avec Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes. Avec Julie, on va évoquer les travaux au sein de l'église paroissiale de Lourdes. C'est dans les prochaines minutes.
J'aime tes vins de Bourgogne qui me racontent des histoires, des petites piquettes qui collent et sentent bon le terroir. Je m'enroule dans ta manche, je rêve de tes tropiques. J'aime tellement tes dimanches, ta campagne, tes criques. Chez toi on se sent libre, égal et fraternel. Et même quand tu m'enivres, je m'accroche à tes prunelles. Tout le 14 juillet, tu brilles des mille feux. On est tous aux aguets, les petits, les grands, les vieux. Chaque fois que je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. Hop, là, hop, hop, là, hop. On ne fait jamais le tour de France. De place, riz carré puis pétanque. M'asseoir à tes terrasses ou sirop à la menthe. T'as le goût de la
on est plus fort, même quand on se fait la guerre, on s'engage et alors on reste solidaire. Chaque fois que je veux partir, voyager fort du pays, je reviens pour ton sourire, ma France, tu m'as tout appris.
C'était à l'instant la voix de Claudio Capeo. Bon appétit à l'écoute de Présence Midi. Je vous signale qu'à 13h aujourd'hui, il n'y aura pas de journal de Radio Vatican. Retour de Radio Vatican, ce sera évidemment dès demain sur notre antenne. La suite de Présence Midi, c'est avec Anne-Rose Jankovic et son invité par téléphone.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Bonjour Patricia.
Bonjour.
Patricia, vous êtes référente du bistrot à l'escale du Secours catholique en plein cœur de Tarbes, ce lieu où les personnes en situation de précarité peuvent venir chercher du réconfort et se réchauffer un petit peu. Et c'est bien nécessaire ces jours-ci puisque le plan hivernal a été déclenché il y a quelques jours, quelques semaines déjà. Mais ces jours-ci, il fait vraiment très très froid. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça change pour vous qui tenez ce bistrot à l'escale, quels sont les changements que vous voyez? Sans doute avez-vous plus de fréquentation?
Alors oui, on a beaucoup plus de fréquentation. En fait, on a ouvert le dimanche pour le plan hivernal. On avait basé au départ sur 20-25 personnes maximum. Et en fait, on est victime de notre succès parce qu'on est les seuls ouverts le dimanche. Donc là, on tourne entre 30 et 35 personnes. On a énormément de personnes accueillies qui sont à la rue, qui dorment au 115. Le 115 nous les envoie aussi. Et chez nous, ils peuvent trouver... Donc, ils ont un repas complet avec entrée, plat, dessert pour 1 euro. Et ils peuvent prendre la douche. Et en fait, ils restent avec nous tout l'après-midi parce qu'ils restent au chaud.
Oh.
Et... Oui.
On dit un bistrot, mais en fait, c'est beaucoup plus qu'un bistrot. Hein. Ils viennent se réchauffer, ils viennent discuter, ils viennent prendre soin d'eux. Ils viennent chercher beaucoup plus qu'un petit café.
Oui, et oui, ils viennent surtout pour pouvoir discuter. Ils discutent entre eux, ils se retrouvent par communauté. Et puis, ils discutent avec nous de leurs problèmes. On essaie d'expliquer, de les orienter. Ils sont aussi... je veux dire, il y en a. Bon, par exemple, là, j'ai une famille qui est. La maman est seule avec 4 enfants en bas âge, qui dort au 115, et la journée, elle le passe dans la gare. Donc, avec les petits, tout jeunes. Et donc, de venir avec nous, ça lui permet. Et de manger des repas chauds, déjà. Et les petits arrivent à dormir un peu, surtout la plus petite arrive à dormir un peu parce qu'elle est un peu plus au calme, même si ça parle et tout, il n'y a pas le brouhaha d'une gare, quoi, surtout en ce moment. Voilà. On a des familles, on pensait avoir surtout des personnes seules, mais en fait on a des familles maintenant.
Donc vous nous dites que dans ces jours-ci où il fait vraiment très froid, hein, moins 7 ce matin à Tarbes et aux alentours de Tarbes, il y a des familles qui se logent grâce à d'autres associations, notamment vous avez mentionné le 115, mais qui le reste du temps, s'il n'y avait pas l'escale, eh bien ne pourraient pas trouver un coin chaud au cours de et passeraient la journée dehors, y compris avec des enfants tout petits.
Voilà. Ils passent la journée dehors et puis quand nous on ferme, il y en a beaucoup qui nous disent on a très froid parce que après le 115 ouvre qu'à 20h30. Donc ils se retrouvent, nous on ferme vers 17h et donc ils se retrouvent après cette période-là où il fait très froid dans la rue directement.
Vous avez vu là depuis quelques jours où vraiment les températures ont chuté, vous avez vu un changement de fréquentation au bistrot, à l'escale?
Ah oui, oui, oui. On a beaucoup de monde qui viennent. En fait, ils viennent le dimanche pour manger parce qu'on leur a dit, mais ils viennent, on leur ouvre le lundi matin. Le lundi matin, ils sont tous là, ils se mettent au chaud, on leur donne des boissons chaudes, on leur donne des plateaux repas. Voilà. Et ils viennent, ils restent avec nous le plus longtemps possible. En fait, ils restent jusqu'au moment où nous, on ferme.
Et ça, vous allez pouvoir le mettre en place jusqu'à la fin du mois de mars, jusqu'à la fin du plan hivernal, autant de temps que ce sera nécessaire.
Oui, c'est prévu jusqu'à fin mars. Jusqu'au 29 mars, le dernier. Alors, pas le lundi, le vendredi, c'est toute l'année, ça. Mais le dimanche, c'est prévu jusqu'au 29 mars,
L'ouverture du dimanche, c'est vraiment une mesure spécifique du plan hivernal et c'est bien nécessaire ces jours-ci. Vous êtes combien de bénévoles là pour accueillir ces personnes, puisqu'on entend que du coup il y a une affluence beaucoup plus importante. Ça veut dire aussi beaucoup plus de besoins en termes de bénévoles.
Oui, mais ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais en fait, on est minimum 3 et dimanche on était 5. Voilà. Et on arrive à faire tourner, à faire manger, parce qu'ils n'arrivent pas tous en même temps non plus. Parce qu'autrement, on n'a pas assez de place. Mais on arrive à accueillir tout le monde.
Accueillir tout le monde, ça veut dire aussi accueillir des profils très différents. Vous parliez d'une maman avec ses 4 jeunes enfants. Il y a des personnes seules, des personnes plus âgées. Comment aussi vous arrivez à faire en sorte que l'accueil de ce public très hétéroclite se passe bien et sans tension? Une maman qui veut faire dormir ses enfants épuisés, elle a besoin de calme, on l'a bien compris. D'autres ont besoin peut-être de plus parler, s'exprimer. Comment vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait quand même une atmosphère sereine, calme, paisible?
En fait, on a la chance d'avoir 2 salles qui communiquent et qui ne sont pas fermées, mais une salle un peu plus petite qui est sur, en fait, le bistrot, ça fait un angle, et qui est sur le côté, où on met plus facilement les familles, parce que comme ça, on met les tables, on le sent ensemble. Et puis, on a, là où on a le comptoir, on reçoit beaucoup les personnes seules. Mais comme ils se mettent par affinité, ils se connaissent, donc ça fait plus des groupes que des personnes isolées. Ils se parlent entre eux, on discute, les nouveaux, on les intègre, on leur fait connaître les autres. Ça permet de... que ça ne soit pas des personnes toutes seules dans un coin. Ça, il n'y en a pas. Là, on les fait vraiment discuter avec eux, parler ensemble et tout. Donc, il y a le barrage de la langue qui fait beaucoup. Mais, par exemple, la dame, là, ils viennent du Kosovo, mais ils parlent, ceux qui sont albanais parlent la même langue. Donc, ils arrivent à commencer à communiquer et à s'entendre, à parler.
Vous avez chaque jour, là, depuis le début du plan hivernal, vous avez chaque jour ou régulièrement des nouveaux visages qui poussent la porte de l'escale?
Oui. Régulièrement, surtout les personnes seules. Surtout les personnes seules, oui. Parce qu'ils se le disent, c'est du bouche à oreille, ils se le disent. Donc le vendredi, le lundi et le vendredi, on a beaucoup de personnes qui viennent, qui savent qu'ils peuvent venir boire une boisson chaude, qui peuvent venir discuter, donc ils viennent. Et on a des têtes nouvelles tout le temps. Puis ils savent qu'ils peuvent prendre la douche aussi, donc ça les réchauffe et tout, donc... ça fonctionne bien.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le Secours catholique et les personnes que vous accompagnez?
Faire des dons déjà, ce serait déjà pas mal. Et puis, s'inscrire comme bénévole, parce qu'on manque de bénévoles.
Eh bien voilà, l'appel est lancé. Le bistrot à l'escale du Secours catholique en plein cœur de Tarbes, à côté du Jardin Massé, a besoin de bénévoles et d'aide pour accueillir tout au long de l'année les personnes qui sont en situation de précarité, et en particulier en ce moment, alors que se déroule le plan hivernal, et ces jours-ci, alors que vraiment les températures ont chuté, que des personnes passent leur journée à la rue. Merci beaucoup, Patricia.
Attendez, je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'on a la boutique avec les vêtements, et donc on donne à ces personnes des couvertures, des couettes, des vêtements chauds s'ils n'en ont pas. Voilà, ça je voulais le rajouter parce que ça nous complète par rapport au bistrot.
Et donc on peut aussi vous déposer des couvertures, des vêtements chauds?
Oui, voilà. Ils donnent en nature comme couverture, vêtements chauds, tout ça, oui. Alors là, par contre, c'est le lundi matin de 9h à 11h pour pouvoir les déposer.
Le lundi matin de 9h à 11h pour déposer des vêtements chauds, des couvertures et tout ce qui est nécessaire pour tenir quand on est dans la rue et dans le froid toute la journée. Merci beaucoup, Patricia, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes la référente du bistrot à l'escale du Secours catholique à Tarbes. Merci et bon courage à vous.
Bon courage et bonne année.
Et merci aussi à vous, à Anne-Rose Jankovic. Bon appétit à l'écoute de Présence Midi.
Présence à l'Albinque, 92.5.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, he truly feels, and not the world.
Yes, it was my way.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
On va s'intéresser aujourd'hui dans Balade à Pays de Lourdes à l'église paroissiale de Lourdes et c'est avec Julie de l'Office de Tourisme. Bonjour Julie.
Bonjour.
On va débuter en parlant de la première église qui n'était pas positionnée à cet endroit.
Exactement, voilà, on va parler de l'église paroissiale du Sacré-Cœur de Lourdes qui n'a pas été la première église originelle de la ville puisque la première église qui s'appelait donc l'église Saint-Pierre était vraiment une église très ancienne qui avait des fondations même paléo-chrétienne avant cela, qui datait environ du 11e siècle et qui n'était pas du tout à cette place, qui n'était pas à cet emplacement, qui était sur l'actuelle place Peyramale, sur le bout de l'actuelle place Peyramale, à peu près pour situer au niveau du monument aux morts. C'est une église donc qui était à l'époque après les apparitions en 1858 qui était devenue petite, qui était assez vétuste également et qui malheureusement était détruite dans un incendie en 1903. Et c'est également à peu près à cette époque que le curé des apparitions que l'on connaît sous ce nom qui était le curé Peyramale a lancé le grand chantier d'une toute nouvelle église paroissiale, l'église du Sacré-Cœur. Donc c'est des travaux qui ont commencé à partir de 1875.
Alors ces travaux qui ont débuté en 1875, ils ont été interrompus à plusieurs reprises.
Ah oui, ça a été une construction très très mouvementée. Alors juste pour situer, c'était selon les plans de l'architecte Édouard de la Barre de Baie. Et effectivement, très vite, le curé Peyramale s'est heurté aux problèmes financiers. Pas mal de mésaventures, donc des travaux qui ont été interrompus à partir de 1877, donc 2 ans tout juste après la pose de la première pierre. Et elle a été à peu près achevée en 1903, mais il manquait le grand clocher, il manquait quand même la toiture n'a pas été construite de suite. Donc c'est vrai que c'est une église qui a dès le début, finalement, dès sa construction, souffert de pas mal des intempéries, d'infiltrations d'eau. Et quand le clocher finalement a été rajouté, le porche monumental aussi qui fait sa devanture, sa façade en 1936, il fallait presque déjà commencer à finalement à la rénover. Et c'est une chose qui a été débutée à partir de 2018, notamment avec aussi une association qui a aidé pour la levée de fonds pour pouvoir rénover cette magnifique église, l'association Le Toit du Cœur.
Voilà, donc depuis 2018, chantier de restauration, avec également un intérieur qui a été refait et redécoré.
Exactement, alors maintenant c'est vrai qu'elle bénéficie d'un intérieur très lumineux qui a été blanchi à l'exception de panneaux colorés peints par un artiste local et qui sont vraiment magnifiques, qui finissent finalement le cœur de l'église. Il faut noter aussi que toute la partie a été rénovée au niveau des fonts baptismaux de Bernard Soubirous. C'est une église voilà, qui est très connue aussi, qui est pas mal visitée par rapport à cela. Les anciens fonts baptismaux qui étaient dans cette église antérieure, donc l'église Saint-Pierre, et qui ont été déménagés à sa destruction dans l'église paroissiale du Sacré-Cœur, et sur lesquels ont été baptisés de nombreux Lourdais, notamment Bernadette, la plus connue.
Autre nouveauté suite à ce chantier de restauration, c'est le parvis avec sa piétonnisation.
Exactement, voilà, il n'y a pas que l'église qui a bénéficié de cette restauration, mais aussi son quartier en fait, et toute la place devant l'église, le parvis de l'église qui a été piétonnisé et réaménagé pour pouvoir profiter et mettre en valeur ce très beau monument.
Voilà pour l'histoire de cette église paroissiale de Lourdes, une église que l'on peut visiter quand on le souhaite.
Exactement, qui est ouverte à la visite tous les jours.
Merci Julie, je rappelle que vous faites partie de l'Office de Tourisme de Lourdes et on se dit à une prochaine fois pour une prochaine balade en Pays de Lourdes. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes. Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio
www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Présence. Dans le Lauragais, 97.9.
Avignon, c'est l'impie Babylone, l'enfer des vivants, la sentine des vices, l'égout de la terre. On n'y trouve ni foi, ni charité, ni religion, ni crainte de Dieu, ni pudeur, rien.